Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi et dans le studio et en conversation téléphonique, Jean-Louis Moreau, éleveur à Vacherin-Quin et membre de la Confédération Paysanne. Et au téléphone, Sandrine Lizaga, qui est à Bordeaux, éleveuse et qui a eu des ennuis récemment avec les services vétérinaires parce qu'elle a osé donner des plantes sans prescription à ses animaux. Et apparemment, ce serait mal vu de nos jours. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Sandrine, est-ce que vous pourriez tout simplement nous restituer ce qui vous est arrivé pour qu'on comprenne un peu là où on en est de nos jours concernant les plantes médicinales, le droit qu'on a d'en donner à ces animaux? Est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire?
Oui, tout à fait. Donc début août, le service vétérinaire m'appelle pour m'informer d'un contrôle. Donc le lendemain, pas de souci, je les reçois pour le contrôle le lendemain matin. Et donc ils m'informent que c'est un contrôle mandaté par la DDT, donc en fait ils le font pas pour eux, mais pour l'organisme DDT, donc qui nous verse une partie des primes, et que c'est un contrôle bien-être animal. Donc ils vont vérifier que les animaux sont en bonne santé, en bon état, bien traités, tout ça. Donc pas de problème pour moi, ils m'informent qu'ils vont commencer par contrôler la pharmacie. Donc plutôt fière de moi, je leur montre ma pharmacie avec des tubes de granules homéopathiques et quelques flacons d'huile essentielle et aucun produit allopathique puisque j'en utilise pas. Et là, j'ai la surprise de la réaction des contrôleuses qui vraiment ont une réaction assez négative en me disant « Oh là là, mais mon Dieu, vous utilisez de l'homéopathie, mais est-ce que vous êtes formée au niveau vétérinaire? Vous n'avez pas d'ordonnance et les huiles essentielles, mais comment est-ce que vous savez quoi leur donner comment ?» Enfin bon, voilà, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression, sur le coup, j'ai pas trop su ce qui m'arrivait, en fait. Et j'ai pas compris, et voilà. Et donc, ils ont relevé donc que c'était une non-conformité par rapport à la réglementation, c'est-à-dire que à ce moment-là, ils m'indiquaient que je n'avais ni le droit d'utiliser de l'homéopathie, ni le droit d'utiliser d'huile essentielle ou de plantes en infusion pour administrer à mes animaux, pour soigner mes animaux, sans ordonnance vétérinaire et sans que les produits dont je disposais dans la pharmacie disposent d'une AMM, donc d'une autorisation de mise sur le marché, donc achetée à des groupes pharmaceutiques ou des choses comme ça. Voilà. Sur ce, j'en ai parlé à Jean-Loup, j'en ai parlé à Sébastien Pellurson, membre aussi de la Confédération Paysanne, et on a décidé d'aller voir, accompagné d'un vétérinaire homéopathe, d'aller rencontrer la DDPP pour avoir plus d'explications. Et au moment de ce rendez-vous, ils se sont rétractés pour l'homéopathie. Entre-temps, ils s'étaient renseignés. Donc, pour l'homéopathie, ils se sont rétractés en disant qu'effectivement, il n'y avait pas d'innocuité. Donc, on pouvait faire ce qu'on voulait avec l'homéopathie, vu que même si on se trompait, entre guillemets, il n'y avait pas de risque. Mais que par contre, pour tout ce qui était plantes et huiles essentielles, il était complètement interdit de traiter ces animaux sans ordonnance vétérinaire et sans que les produits utilisés disposent de cette fameuse AMM. Voilà. Donc là-dessus, moi, j'ai reçu aucun rapport de fin de contrôle qui m'indique quelles sont les pénalités encourues par rapport à cette non-conformité observée lors du contrôle. Mais je pense que bon, c'était quand même important d'en parler, d'en informer les autres éleveurs. Et en plus, en parlant, on s'est rendu compte que dans d'autres départements, d'autres éleveurs avaient subi plus ou moins la même chose, avec, pour certains, des pénalités dues à l'utilisation d'homéopathie. Donc, d'un département à l'autre, les sanctions ne sont pas les mêmes et les applications à la réglementation ne sont pas tout à fait pareilles. Voilà.
Alors ça, c'est une réglementation qui date de quand, cette interdiction d'utiliser de l'homéopathie et des teintures mères sans prescription médicale?
Moi, ils nous ont sorti le texte de loi. Honnêtement, j'y ai pas fait plus attention que ça. Je sais que Jean-Loup, il est un petit peu plus renseigné là-dessus, sur le texte qui interdit l'utilisation de plantes. Mais moi, j'ai pas fait plus attention que ça, parce que pour moi, de toute façon, c'est hors de question de travailler autrement. Il faut aller contre ça.
Il y a des textes assez récents hein, qui et notamment un règlement de l'Union européenne, le règlement 230/2013, qui est sorti, je crois, en août 2013, et, qui vise à réglementer l'usage des plantes. Il y a aussi, en août 2013, un avis juridique de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui fait un point qui se base sur des avis de la Cour européenne de justice et de la Cour de cassation, donc des jugements qui ont été produits par les différentes juridictions, qui visent à dire que dès qu'il y a une allégation de santé dans l'utilisation de plantes, hein, eh bien, cela même définit le fait que ces plantes sont présentées comme des médicaments, un usage thérapeutique. Et à ce moment-là, d'emblée, ça tombe sous le coup de l'obligation d'une prescription par un médecin, si c'est pour des hommes, ou par un vétérinaire, si c'est pour des animaux.
Alors, quelle est la justification à cette obligation de prescription ? C'est parce qu'on pense que l'automédication est potentiellement néfaste ?
Ben, la justification, on ne nous dit pas d'exemples précis d'intoxication par des plantes, etc. Ce qui est invoqué, c'est le fait que l'utilisation d'huile essentielle ou de plantes pourrait produire des résidus dans les produits qui sont utilisés par les consommateurs, les produits laitiers ou les œufs ou la viande. Mais on n'a pas de données, on n'a jamais entendu parler de gens qui étaient intoxiqués suite à l'utilisation de plantes. Par contre, on sait qu'il y a des gens qui ont été malades en utilisant, soit par prescription médicale, soit dans le cas d'automédication, il y a des gens qui ont été intoxiqués par l'utilisation de médicaments chimiques.
Donc en fait, le bon sens, vous rejoindrez Sandrine comme toi Jean-Louis sur le fait que c'est une réglementation un peu inique et sans fondement.
Ah ben oui, pour moi elle a aucun sens. Même en tant qu'humain, on se fait des tisanes de thym l'hiver quand on est enrhumé, et jusqu'à maintenant ça a jamais porté préjudice à personne. Et là on fait une tisane à nos animaux, d'un seul coup on nous dit oulala, vous allez intoxiquer tout le monde. Enfin bon, c'est complètement hallucinant quoi. Moi je suis restée à plus savoir quoi dire, à pas comprendre quoi, vraiment. Je pensais vraiment bien faire et je pense toujours que je fais bien. Et on nous parle vraiment comme si on était vraiment des vilains hors la loi, qui respectons pas la règle, voilà quoi. Alors on nous donne comme solution de contacter un vétérinaire qui est spécialisé là-dedans. Il y en a très très peu, donc ils nous donnent un nom d'un vétérinaire qui est sur bourg de péage. Enfin voilà quoi, c'est très loin, puis de toute façon on n'est pas des apprentis sorciers, on s'amuse pas à donner des plantes n'importe comment à nos animaux. On a fait des formations, on se renseigne, on prend conseil auprès de gens qui ont de l'expérience. Notre but c'est pas non plus de rendre malades nos animaux ou de rendre malades nos consommateurs. Donc on fait pas ça n'importe comment quoi. Donc il faudrait vraiment quand même qu'ils nous fassent un petit peu confiance là-dessus. Et qu'ils arrêtent de réglementer tout et n'importe quoi, parce que là, on a vraiment l'impression que demain, on sera obligé d'avoir des ordonnances pour les rations qu'on devra distribuer à nos animaux tous les jours, quoi. On devra avoir une autorisation pour tout et pour n'importe quoi.
Pourrait-on envisager des mauvaises prescriptions en termes de plantes médicinales, voire d'homéopathie, qui pourraient déboucher sur des préjudices sur et les animaux et ceux qui les consomment après ? Ça peut exister, ça ou...
Alors nous, si on fait une mauvaise utilisation d'huile essentielle, on va parler du produit le plus fort, hein, parce que tout ce qui est plante, tisane ou homéopathie, ça disparaît dans les 24 heures de l'organisme de l'animal. L'homéopathie, il n'y a vraiment aucun risque. Les plantes, à la limite, s'il y a quelques résidus chimiques dans le sang, la quantité qui va être absorbée, elle est tellement infime qu'il ne peut pas y avoir d'impact. Donc sur l'huile essentielle, si on la concentre vraiment trop, on peut effectivement soit brûler l'animal... Soit, dans mon cas, étant donné que je suis éleveur laitier, retrouver des résidus d'huile essentielle dans le lait, mais dans ce cas-là, mon fromage, il sera intransformable. Donc, je ne pourrai pas vendre au consommateur un produit que je ne peux pas transformer, parce que de toute façon, l'huile essentielle surdosée, elle va complètement faire tourner le lait, quoi. Et pour en arriver à ça, c'est vraiment plus qu'une très, très, très grosse erreur qu'il faut faire, quand même. Voilà, si on se trompe dans le type de traitement qu'on a choisi de faire, si on se trompe de traitement, la plus grosse conséquence, c'est que ça ne fasse pas effet.
Jean-Louis, toi aussi, tu soignes tes bêtes avec l'homéopathie. Qu'est-ce que tu en penses de ces méthodes un peu thérapeutiques naturelles?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sandrine. Il faut préciser un peu la différence entre l'homéopathie et l'utilisation des plantes qu'on appelle souvent la phytothérapie ou l'aromathérapie dans le cas d'huile essentielle. L'homéopathie, c'est l'utilisation de substances végétales, des plantes ou animales. Hein. C'est par exemple l'utilisation du venin d'abeille ou du venin de serpent, et puis des minéraux ou des métaux, mais tout ça extrêmement dilué et dynamisé. C'est-à-dire que quand vous prenez une substance homéopathique, des granules qui sont en vente chez le pharmacien, eh bien, il n'y a plus de trace pondérale du produit d'origine qui a été dilué plusieurs fois et dynamisé successivement. Donc, il était impossible qu'il y ait des résidus, quoi. Et l'administration le sait bien, c'est bien pour ça que quand on a été reçu par la DDPP à notre demande, eh bien, d'emblée, la première chose qu'ils nous ont dit, c'était que l'homéopathie n'était pas concernée par les remarques qu'ils avaient faites suite à leur visite chez Sandrine. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les plantes, beaucoup de plantes qu'on utilise en infusion, eh bien, elles sont dans notre environnement, dans l'environnement des brebis, enfin des animaux d'élevage, dans les prairies naturelles, dans les bois, sur les parcours. Et alors, est-ce qu'il faudrait détruire toutes ces plantes qui ont des vertus médicinales? C'est complètement aberrant. Et les bêtes, elles consomment ces plantes. Il n'y a pas de frontière entre l'utilisation par les bêtes à des fins alimentaires et aussi à des fins de soins, parce que les bêtes, elles choisissent aussi dans la nature des plantes pour se purger ou se soigner. Elles n'attendent pas nous-mêmes pour le faire. Hein. Moi, j'ai vu des brebis qui mangeaient du buis, qui mangeaient de la prêle ou de la fougère. On sent bien là qu'elles cherchent à parer des carences ou à se purger. On sait bien aussi, on voit les chiens qui, quand ils mangent de l'herbe aussi, ils se purgent. Hein. C'est, les animaux, ils ont une réaction dans la nature pour retrouver un état de santé quand ils sont déficients. Quoi.
Toi, tu fais partie de la conf. Est-ce que si on pouvait un peu envisager le volet des conséquences de ce qui se passe en ce moment concernant Sandrine, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous battre? Est-ce que vous allez manifester à la DDPT? Ou est-ce que vous allez faire des opérations coup de poing? Et quelle est la position de la conf, par exemple?
Actuellement, c'est une question, puisque hein, on a vu que c'était une réglementation relativement récente. C'est les éleveurs qui nous font part de leurs problèmes, de leurs expériences. Et on est en train de discuter, de réagir petit à petit. C'est également... pas seulement dans la Confédération paysanne, mais aussi dans les organismes de l'agriculture bio, parce que donc les gens qui font de l'élevage bio, ils n'utilisent pas les produits dits allopathiques, les produits classiques, hein, qui eux ont des délais d'attente, etc., qui présentent des résidus dans les produits animaux. Et donc c'est important pour les producteurs bio de pouvoir utiliser largement les produits à base de plantes, et c'est aussi dans les filières bio, c'est une question importante. Alors, on est en train de se rencontrer, de discuter, et en tout cas de revendiquer l'utilisation des plantes. Il faut souligner que c'est un usage ancestral, l'utilisation des plantes. Depuis l'Antiquité, les hommes utilisent des plantes pour se soigner eux-mêmes ou pour soigner leurs animaux. Et ils n'ont pas attendu qu'il y ait des vétérinaires avec leur science pour faire ça, quoi. Hein. Et c'est donc des usages qui sont transmis traditionnellement, en grande partie aussi oralement, bien que maintenant de plus en plus il y ait des livres auxquels on peut se reporter pour se documenter, s'informer et voilà, et partager nos expériences. Il y a aussi, comme l'a souligné Sandrine, des vétérinaires très compétents et qui se sont formés et qui ont écrit aussi des bouquins auxquels on peut se reporter.
Mais qui sont pas forcément à côté et c'est pas si facile de faire appel à un vétérinaire à Bourg-de-Péage quand on habite à Bordeaux, j'ai bien compris.
Ouais, ouais. Moi, je voudrais souligner un autre aspect, c'est qu'il y a actuellement un plan du ministère de la Santé et du ministère de l'Agriculture pour réduire l'utilisation des antibiotiques. Parce que les médecins se sont rendus compte que du fait d'un usage massif aussi bien en médecine humaine que vétérinaire, Il y a eu un recours, disons, excessif à l'usage d'une grande gamme d'antibiotiques. Et il y a des germes microbiens qui se sont adaptés et qui ont trouvé des parades à l'utilisation des antibiotiques et qui deviennent antibiorésistants. Et donc, les scientifiques, les gens des ministères, ils veulent réduire de façon importante l'usage des antibiotiques. Et en particulier de certaines classes d'antibiotiques récents. Mais on marche sur la tête parce qu'on est dans cette phase de réduction de l'usage des antibiotiques et on veut, disons, nous embêter avec le recours qu'on fait à l'usage des plantes. C'est complètement aberrant, quoi. Mais moi, ce que je pense, c'est que derrière ça, il y a très concrètement des intérêts des industriels du médicament vétérinaire ou même humain qui veulent récupérer la mainmise sur l'utilisation des plantes, hein. C'est évident, quoi. Et puis aussi, certains pharmaciens ou vétérinaires qui veulent garder la main sur cette médecine, quoi.
Ça rentre dans le cadre d'un débat plus global sur l'appropriation du vivant par certains grands groupes, quoi, hein. Ça, c'est
tout
sûr.
À fait.
Et que ce soit là-dedans ou que ce soit aussi dans la transmission de certaines graines, alors apparemment il y aurait aussi du rififi en ce qui concerne la transmission des graines. Maintenant ça devient interdit de transmettre des graines sur un marché.
Oui, tout à fait.
Enfin, bon, il y a tout un ensemble de mesures dont on pourrait suspecter qu'elles sont à l'avantage de grands groupes industriels. Je ne vais pas m'attarder sur ce débat parce que c'est très vaste et puis je pense que tout le monde est un petit peu au courant. Je voudrais peut-être être un peu concret. Que va-t-il se passer pour toi, Sandrine? Est-ce que vous allez monter des opérations pour te défendre? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour te défendre et monter ça en épingle afin d'informer la population? Qu'est-ce qui est prévu pour te défendre?
Alors, ce qui est prévu, c'est une ferme ouverte donc le vendredi 13 décembre chez moi, sur mon exploitation. Donc le matin, on fait une visite de la ferme et l'après-midi, on fera une petite conférence débat avec toutes les personnes intéressées, agriculteurs, non-agriculteurs. Donc il y aura un peu des intervenants. Il y aura donc Monsieur Boutonnet, vétérinaire homéopathe. Il y aura Jean Loup. Il y aura quelques membres de la conf. Il y aura peut-être d'autres invités. Et on va donc discuter entre nous de tout ça. Après, pour me défendre foncièrement, étant donné que moi je sais pas encore exactement ce à quoi je vais être à quelle sauce je vais être mangée, pour l'instant j'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de me défendre. Plus que ça, je me suis déjà défendue sur le contrôle en lui-même. Voilà. Donc ensuite, c'est la DDT qui doit trancher. Est-ce que j'ai un pourcentage de non-conformité par rapport à cette erreur entre guillemets? Qui fait qu'on va me déduire des primes ou pas, ça pour l'instant j'en sais rien.
Oui, parce que si j'ai bien compris, c'est ce qu'on appelle les contrôles de conditionnalité qui
voilà,
lient
ouais,
l'attribution
ouais.
De.
C'est-à-dire que si la marge d'erreur par rapport à leurs critères de contrôle est supérieure à un certain pourcentage, eh bien ils pénalisent par la suppression d'un pourcentage de primes. Et pour l'instant, moi j'ai vraiment absolument rien reçu. Alors est-ce que c'est très long? Est-ce qu'ils jugent que parce que c'était trop infime, puisque tout le reste était ok, ils vont même pas y faire attention, ou tenir compte? J'en sais rien, j'ai vraiment aucune nouvelle de leur part, quoi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de me défendre plus que ça. Mais par contre, je prends vraiment à cœur, déjà de défendre tous les autres éleveurs dans les autres départements qui ont subi aussi ce contrôle et qui ont été pénalisés pour certains déjà et plus que moi. Et d'en informer tous les éleveurs pour qu'on se mobilise et qu'on se laisse pas faire, quoi. Donc pour l'instant, on fait cette ferme ouverte, on fait ce débat, on en discute. On n'est pas encore dans les actions coup de poing ou les actions un peu plus importantes. On en discute encore. On attend de voir si on peut en parler aussi avec la DDT. Bon, avec la DDPP, on en a déjà parlé, mais voilà, s'il y a moyen de faire modifier un peu les choses par la discussion aussi, quoi.
Je suppose que c'est une journée porte ouverte qui est ouverte à tout le monde. Que va-t-il s'y passer? Est-ce que tu pourrais nous donner les horaires et peut-être même nous indiquer comment faire pour trouver ta ferme?
Donc l'exploitation se trouve à Bourdeaux. Donc pour y venir, c'est pas très compliqué. À partir de Bourdeaux, qu'on vienne de Dieulfi ou de Cray ou même de Crupy, il y aura des panneaux indicateurs avec un panneau jaune Confédération Paysanne et en dessous une affiche ferme ouverte. Donc il suffit de suivre ces panneaux. L'accueil à la ferme se fait à 9h30, voilà, autour d'un petit café, d'une petite boisson chaude. On commencera à discuter, à visiter l'exploitation. Ensuite, à midi, on quitte l'exploitation et on va manger donc à la salle de l'ancienne cantine à Bourdeaux. C'est à côté du terrain de tennis. Et là, on sera au chaud et on se retrouvera donc pour manger tous ensemble avec ce que chacun aura apporté à partager. Et puis, à partir de 14h, le débat pourra commencer avec tous ceux qui se sentent concernés et intéressés par le sujet. Voilà, en soulignant qu'effectivement, le sujet concerne les éleveurs, mais bientôt aussi, je pense, soit d'autres personnes dans le monde agricole, soit carrément tout le monde, en fait. Parce que si aujourd'hui, les éleveurs n'ont plus le droit de soigner leurs animaux par les plantes, demain, c'est peut-être les arboriculteurs qui auront plus le droit d'administrer des plantes pour traiter leurs arbres. Et après-demain, c'est carrément, on n'aura plus le droit d'acheter de thym séché pour se faire une infusion.
Oui, c'est ça, l'automédication deviendra suspecte.
Voilà, ouais, c'est carrément, c'est vraiment la population complète qui risque d'être affectée par cette réglementation qui va, à mon avis, qui commence comme ça doucement et puis qui va progresser, quoi. Voilà, si personne ne dit rien dès le départ, ils vont profiter, ils vont gagner du terrain comme ça, quoi.
Alors tout à l'heure, je voulais pas manquer dans une conversation très polémique, mais quand on regarde un peu votre actualité, à vous autres éleveurs, vous êtes quand même un petit peu attaqué de tous les fronts, que ce soit le fichage 2.0, que ce soit les histoires de boucs, vous auriez plus tout à fait le droit d'utiliser vos propres boucs, que ce soit aussi au niveau des plantes aromatiques et de l'automédication, vous êtes un peu attaqué de tous les fronts par des réglementeurs tatillons, j'ai l'impression. Ça doit être dur à vivre, non ?
Oui, j'espère que je dis pas de bêtises en disant que c'est l'uniformisation un petit peu de la réglementation mondiale, européenne, voire mondiale, qui fait qu'on essaye d'adapter une seule et même règle pour tout le monde, alors que on a des disparités par pays dont devraient tenir compte les réglementations en cours, quoi. Moi, j'ai cette impression que cette volonté d'uniformiser toutes les règles et qui fait que on se retrouve avec des pays qui sont plus tatillons sur ce genre d'utilisation, qui vont faire que ça durcit la réglementation chez nous. Quoi. Voilà quoi. Et j'ai l'impression que ça rend service à personne parce que du coup, aucun pays va trouver son compte dans une réglementation qui est trop uniforme. Quoi. Enfin, moi, c'est mon opinion, c'est mon sentiment. Maintenant, je sais pas, Jean-Loup, s'il est peut-être plus au courant de ce genre de choses, il peut peut-être plus en parler.
Oui, ce qui est manifeste, c'est que, au travers des différentes réglementations qui se mettent en place ou des dispositions qu'on nous impose, c'est, disons, des façons de travailler, des protocoles de travail qu'on veut mettre en place. Bon, nous, on y est très sensible dans l'élevage. Par exemple, à travers l'obligation de mettre des boucs électroniques, on voudrait nous imposer une gestion de nos troupeaux avec une certaine rationalité qui a recours à l'informatique, etc. quoi. Et il y a beaucoup de bergers ou d'éleveurs qui sont complètement dans une autre pratique. Je dirais, moi, que c'est une façon aussi, plus ou moins, de voir ces bêtes comme des objets ou des machines, quoi. Et ça, c'est très éloigné de la façon de voir de beaucoup de bergers ou d'éleveurs, quoi. Et puis cette façon sur l'utilisation de l'informatique, c'est aussi ce qui se passe sur d'autres professions. On sait que dans les professions de l'enseignement ou de la santé, les personnels sont obligés de toujours de faire des de suivre des procédures et de faire un suivi via l'informatique des patients ou des élèves. Et ça, c'est insupportable de plus en plus, quoi. D'ailleurs, on sait bien que c'est des secteurs qui sont en crise, parce que ce soit l'élevage, l'enseignement ou la santé, c'est des métiers où on est dans des processus du vivant. Et on considère que ce soit des animaux ou des personnes comme des objets, comme des machines, quoi. Et ça, c'est pas supportable, quoi. Je pense que beaucoup de gens ressentent un malaise et puis vont se révolter contre ces excès, quoi.
Alors moi, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que Sandrine a parlé d'uniformisation. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt la vision qu'ils ont de ce monde, effectivement. Parce que uniformiser, pourquoi pas, mais si on utilise les plantes aromatiques depuis l'Antiquité, c'est qu'on a pu constater qu'elles faisaient du bien. Donc c'est bon. C'est juste la conception qu'ont un certain nombre de soignants comme quoi les plantes aromatiques pourraient apporter des choses négatives, mais pas plus que ça, en fait. Donc c'est juste leur conception qui est étrange, qui est un peu loin de nos considérations.
Ça tend à aller vers une uniformisation, oui, mais très industrielle. Donc du coup, avec la volonté de développer des grosses exploitations, des grosses structures, très mécanisées, très informatisées, l'humain disparaît complètement, les petites structures, ben, pour eux c'est compliqué à gérer. Cette uniformisation, ben, on en voit l'exemple du lait cru par exemple, où dans certains pays on peut plus commercialiser nos fromages parce que ils sont lait cru et que la réglementation elle tend à aller de plus en plus à interdire le lait cru. Alors nous on a encore quelques AOP qui protègent la fabrication de nos fromages, mais qu'en sera-t-il demain si ça continue comme ça, quoi? Moi je trouve que voilà, elle est dangereuse parce que chaque pays a ses identités culturelles et que il faut uniformiser certaines choses peut-être pour aider ou améliorer dans le travail, mais il faut quand même que chacun garde son identité culturelle et garde ses procédés, ses façons de faire. Et que les industriels arrêtent de vouloir tout contrôler et tout absorber uniquement pour une seule et unique raison, l'argent en fait.
On peut évoquer aussi les conséquences des restrictions de l'usage dues à la réglementation sur les plantes médicinales, les conséquences pour les cultivateurs de plantes et les cueilleurs aussi. Souvent, c'est les mêmes personnes. Donc dans la Drôme et en particulier dans la vallée de la Drôme, on sait qu'il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui travaillent avec les plantes. Eux aussi, ils vont avoir des conséquences graves pour l'économie de leurs exploitations dues à ces restrictions réglementaires. Donc c'est un aspect, je pense, qu'on pourra évoquer à la ferme ouverte de vendredi prochain. D'ailleurs, il y aura Claire Montesinos, qui est productrice de plantes et d'huiles essentielles à Barnave, qui participera à la journée. Donc,
qui donnera son avis sur la question.
Tout à fait, oui.
Jean-Louis, je vois que tu es venu avec un livre. Tu parlais tout à l'heure que nous avions, en tant qu'individus, la possibilité de nous documenter pour appliquer les meilleurs moyens, les plus naturels, les plus innocuis aux hommes et aux animaux. Est-ce que tu pourrais nous en parler, si tu l'as mis?
Oui, c'est un livre qui vient de sortir, là. C'est de Thierry Thévenin, qui est producteur de plantes et qui est un grand connaisseur des plantes médicinales, de leurs usages. Je recommande vivement aux auditeurs ce livre. Ça s'appelle « Plaidoyer pour l'herboristerie » par Thierry Thévenin et c'est publié aux éditions Actes Sud, Domaine du Possible. C'est un livre qui vaut à peu près une vingtaine d'euros, que vous trouverez sans doute dans toutes les librairies.
Sandrine, est-ce que avant de se quitter, tu pourrais rappeler tes coordonnées téléphoniques au cas où il y a des gens qui se perdraient dans la nature ou alors qui voudraient avoir quelques renseignements complémentaires ou avoir des infos sur ce qui arrive dans ce secteur?
Oui, donc je donne le numéro de mon portable parce que je suis quand même assez difficilement joignable chez moi. Donc c'est le 06 12 64 68 48. Voilà, et on peut me laisser des messages. Je rappelle quand je réponds pas au téléphone tout de suite, il n'y a pas de souci.
Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de raconter ton histoire et merci à Jean-Louis d'avoir complémenté avec son avis d'éleveur et puis son bon sens. Donc on peut donner rendez-vous aux gens que ce sujet intéresse. La ferme du Cerf, le vendredi 13 à partir de 9h30, café, thé vous attendent et débats qui s'en suivront.
À Bordeaux.
Voilà.
À Bordeaux. Hein. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.